Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, nous allons parler leadership, développement de soi et amélioration pour les autres. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Malak Oussidoum, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Malak?
Ça va très très bien, je te remercie. Alors, avec toi aujourd'hui.
Merci beaucoup. C'est moi qui suis honorée d'être avec une grande professionnelle du leadership, justement. Alors, si vous deviez résumer le leadership, ça serait quoi pour vous, Malak?
Alors, c'est compliqué de résumer la notion du leadership. Déjà, le leadership, initialement, est en train de, les paradigmes du leadership sont en train de changer,
oui,
d'abord.
Absolument.
Et deuxièmement, il y a beaucoup d'académiciens qui donnent leur définition et je pense que j'oserais pas donner la mienne, mais tout ce que je peux dire, moi, pour le résumer, comme vous dites, c'est qu'aujourd'hui, le leadership est devenu un style de vie. C'est une expérience, c'est un parcours de transformation perpétuelle qui est mise en puissance par une noble raison d'être. Être leader aujourd'hui, c'est être dans la découverte constante de soi, en repoussant les limites de l'avenir, en faisant fi des freins psychologiques, et apprendre à aller à l'essentiel pour anticiper et dépasser les attentes, justement.
Et l'autre dans tout ça, dans le leadership? Parce que le leadership vise à leader les autres, à amener les autres vers un accomplissement. Est-ce qu'on n'a pas tendance à trop concentrer le leadership sur la personne et pas assez sur les autres?
Alors effectivement, c'est un des chiffres de paradigme que le leader doit comprendre en ce moment. C'est pour ça qu'on parle d'une expérience et un parcours de transformation perpétuelle, parce que cette transformation se fait vers les autres. Mais pour pouvoir faire
et
cette
pour
transformation,
les autres.
Le leader... Oui, enfin vers les autres, c'est-à-dire que c'est le leader, c'est ça, vers les autres, c'est-à-dire que c'est le leader qui doit, d'une manière ou d'une autre, diriger la transformation des autres.
Alors, voilà. Est-ce que vous direz diriger ou orienter la transformation des autres?
Alors, il y a un large spectre dans le leadership. Il y a la direction, il y a l'orientation, il y a l'inspiration, il y a un spectre très, oui, très large. Il y a l'élévation. Donc, effectivement, le leadership aujourd'hui, avec tous ces changements de paradigme, nécessite de traverser tout ce spectre du monde de leadership.
C'est ça. Et de savoir où s'arrêter, à quel moment, et au cas par cas. Voilà, je vais y arriver. Au
exactement.
Cas par cas.
Et, exactement.
Exactement.
Au cas par cas, situation par situation. Tout à fait.
Alors, Malak Oussidoum, qu'est-ce qui vous a amené, vous, au leadership, à vous intéresser à ça alors que vous étiez dans un autre domaine?
Effectivement.
Plus académique.
Effectivement. Alors, plus technique, oui. Moi, je suis de formation ingénieure, informaticienne. Et donc, j'ai fait de la stratégie d'organisation, de l'audit de systèmes d'information, et donc de l'accompagnement au changement. Et c'est cet accompagnement au changement que j'ai fait, qui m'a permis de me rendre compte que, quels que soient les systèmes qu'on veuille changer, si l'humain ne commence pas par changer lui d'abord... Et si l'humain n'est pas celui qui sponsorise le changement, qui stimule, qui catalyse le changement, quel que soit le système qu'on va mettre en place, il n'aura pas de succès.
Absolument.
Donc, c'est ça, en fait, qui m'a menée vers ce domaine. Et en 2010, j'ai pris la décision de me dédier complètement à l'humain. Et depuis, c'est ma passion et... Disons que je m'éclate.
Alors, une petite question. C'est vrai qu'elle n'a rien à voir avec vous, mais ce que vous venez de dire m'inspire en fait cette réflexion. Vous savez, on a très souvent reproché d'importer des stratégies toutes faites de les implémenter au Maroc, notamment en matière d'éducation. On a ramené le on ramène des modèles de l'extérieur et on les implémente au Maroc. Et ces modèles ont pratiquement tous échoué. Le modèle scandinave, le modèle, à chaque fois on parle, le modèle canadien, à chaque fois on parle d'un nouveau modèle d'éducation. Est-ce que c'est en lien avec ça, avec l'humain? C'est avant tout l'humain qu'il faut étudier avant d'étudier le modèle qu'on va calquer. Et pourquoi ne pas, finalement, sortir son propre modèle?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette approche. C'est ce qu'on appelle, on dit en anglais, c'est « human-centered ». C'est-à-dire que, quelle que soit la méthodologie qu'on veuille appliquer, il faut d'abord regarder les spécificités du contexte pouvoir bien l'adopter, effectivement. Moi, personnellement, je pense que en termes d'éducation, effectivement, le modèle scandinave a fait ses preuves. J'ai fait partie d'un programme qui a... C'est pour ça que je me permets d'en parler un petit peu plus.
Oui.
Je fais partie d'un programme qui a visé ça, où nous sommes allés en Finlande pour voir la réussite de ce modèle et sur quoi il est basé. Mais,
ça fait environ 6-7 ans, j'imagine.
Oui, exact.
Exact. C'est ça.
Et effectivement, que lorsqu'on est sur place, on a l'impression que c'est magique et qu'il faut aller le calquer tel qu'il est parce qu'autrement, il ne fonctionnerait pas.
Oui.
Mais il y a une adaptation à faire parce que les personnes ne sont pas les mêmes.
Les mêmes, absolument. Alors, oui. quand on est dans le leadership comme vous, est-ce qu'on accepte l'échec?
Bien sûr. C'est la première... je vais reprendre une citation d'un grand académicien dans le leadership qui dit, en anglais, il dit pour passer d'un good leader to a great leader, c'est savoir apprendre de ses erreurs. Donc, effectivement, il faut accepter l'échec. Et en fait, on mentionne presque pas la notion d'échec. On dit qu'on apprend de nos erreurs, c'est un apprentissage continu. Donc, ça fait partie du leadership de regarder où est-ce qu'on a échoué et quelle est la meilleure façon de rebondir.
L'ingénieur que vous êtes, la formation d'ingénieur, on sait que les ingénieurs, c'est des têtes bien faites en général. Et c'est des gens qui sont assez, à travers le cursus d'apprentissage, qui sont assez dans la compétition. Est-ce que changer de mindset, parce que finalement pour accepter l'échec, il faut sortir de ce cadre de formatage d'ingénieur. Est-ce que ça a été chose facile? Est-ce que vous en êtes sorti surtout?
Alors, pour répondre à votre question, je vais vous dire très sincèrement, moi, quand j'étais à l'université Al-Hawain, cette notion de compétition, c'est la raison pour laquelle je suis allée à l'université Al-Hawain, c'est parce que j'étais contre la notion de compétition basée sur le simple fait d'être dans une compétition. Moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait prépa, bac scientifique, prépa, c'est le cursus naturel, que j'ai complètement rejeté dans cet esprit-là. Alors, j'ai rejeté deux choses, la compétition et le fait d'être cadré. Sans avoir dans une contrainte, ce qui est différent de la discipline. Ça, c'est vraiment la prépa. Et donc, j'ai choisi ce système anglo-saxon. Et donc, je vais redire encore une fois à Hawaï. Et parce que j'en suis très fière. Je pense que les premières promotions, et puis même le reste des promotions maintenant, ont été des promotions qui ont beaucoup réussi pour le Maroc. Et qui donne en ce moment. Et donc, j'ai été ambassadrice pendant un certain temps de l'université. Mais donc, ce que je disais, c'est que j'ai fait le choix d'aller vers ce système anglo-saxon. Pourquoi? Parce que j'étais contre la notion de compétition juste. Mais la compétition sur la différenciation, sur notre talent, sur ce que nous sommes capables de fournir comme valeur sur la base de notre valeur absolue, est complètement différente d'une compétition juste pour être dans la compétition. Donc, disons que dans mon esprit, c'était clair depuis très très jeune, et c'est ce que j'ai suivi pour surtout le long de mon parcours. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, je n'ai pas nécessairement eu besoin d'être dans le changement de mindset par rapport à l'échec, parce que depuis très très jeune, je suis beaucoup plus dans ce qu'on appelle growth mindset, c'est-à-dire l'apprentissage.
Et le développement, continue. Absolument.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une discipline, c'est un secteur professionnel qui est reconnu ?
Agir. Celui de l'accompagnement au leadership.
Absolument.
Alors, merci beaucoup pour cette question parce que ça va me permettre d'être dans, dans la militance par rapport au Maroc. Parce qu'effectivement, c'est un secteur qui est très, très reconnu, qui est en train de prendre de plus en plus d'importance et d'ampleur en Occident. Surtout après le Covid, les leaders, les seniors se sont rendus compte qu'aujourd'hui, être un CEO, être un dirigeant, nécessite presque obligatoirement d'être accompagné à avoir un coach pour bien avancer, pour donner le meilleur de soi, pour traverser ce monde de turbulence.
Pour se remettre en question aussi.
Bien sûr, bien sûr, parce que traverser un monde de turbulence passe nécessairement par se remettre en question. Ça ne veut pas dire quand on est dans la résilience, c'est aussi se poser les bonnes questions au bon moment. Et donc... en Occident, c'est en train, c'est vraiment assimilé. Chez nous, au Maroc, c'est en train d'être assimilé. Mais il y a beaucoup de seniors leaders au Maroc qui gagneraient énormément à se faire davantage accompagner, juste dans le principe de se dire qu'ils peuvent donner encore plus et mieux que ce qu'ils font maintenant.
Ça veut dire que ce n'est pas encore vraiment reconnu. Alors, dans ce cas-là, vous passez votre temps à travailler à l'étranger ou à décrocher des contrats locaux ?
Alors, sincèrement, c'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié parce qu'effectivement, il est beaucoup plus simple pour moi de pouvoir travailler dans un contexte et dans des conditions où la porte est déjà ouverte. Il n'y a pas besoin de faire une sensibilisation, conscientisation pour expliquer jusqu'à quel point est-ce qu'il est bénéfique de pouvoir se faire accompagner. Alors, par rapport au Maroc, juste pour dire les choses plus clairement, c'est les senior leaders qui ont besoin de cette conscientisation. Sinon, eux, par rapport à leurs équipes, par rapport à leurs cadres dirigeants, ils sont très ouverts à l'accompagnement. Mais pour eux-mêmes, ils sont pas encore, ils ont besoin encore d'un peu de travail.
Alors, est-ce qu'ils ont besoin de travail ou pour eux, à partir du moment où on dirige une grande structure, on n'a pas besoin d'être coaché parce que on est arrivé là parce qu'on a des compétences? Par contre, lesquelles ? Là est la question.
Tout à fait, tout à fait. Alors, ça, c'est aussi un grand changement de paradigme dans le leadership, dans le sens où auparavant, c'était « Ah, je suis arrivé à une position de leader, donc je suis bien fait, je suis bien formaté, j'ai toutes les compétences et j'ai toutes les habiletés pour pouvoir le faire. » Et donc, ça devient une fin. Aujourd'hui, le leadership et être leader... même quand on a 50 ans, même quand on est CEO, c'est un point de départ pour quelque chose de plus grand.
C'est ça.
Donc ça, c'est le voilà.
De plus grand ça, humainement, pas de plus grand, pas de plus grand sur un organigramme, bien sûr.
Tout à fait.
Mais
tout
humainement.
À fait, parce que humainement, parce que théoriquement. Ils sont les mieux positionnés pour pouvoir être une force pour un bien commun, pour un bien collectif. Et ceci passe nécessairement à travers l'humain, son épanouissement. Et donc, savoir faire ça, c'est un art. C'est l'art du leadership. Et donc, c'est là où des personnes comme moi interviennent. pour accompagner cet art du leadership. Et moi, personnellement, ça me passionne de faire ça.
Mais alors, dans ce cas-là, ça, vous dites c'est plus simple à l'extérieur parce que je n'ai pas à batailler pour faire connaître et faire comprendre l'importance de ce champ. Mais du coup, ça vous, oui, ça vous pousse à bouger beaucoup et avoir moins de stabilité, on va dire, chez vous. Le revers de la médaille, c'est ça.
Oui. Maintenant, c'est depuis le Covid, on travaille beaucoup à distance.
Oui.
Donc, du coup,
oui,
il y a beaucoup moins de déplacements qu'auparavant. Mais effectivement, ça donne un petit peu moins de stabilité. Mais disons que je suis personnellement très, très mobile. J'ai besoin de ce mouvement.
Malak Oussidoum, quand on est dans le leadership comme vous,
oui,
est-ce qu'on fonctionne à court terme, à moyen terme ou à long terme?
Alors, c'est les trois en même temps. Merci pour la question parce que c'est les trois en même temps. Et ça aussi, c'est un nouveau paradigme dans le leadership. C'est comment être dans le long terme dans un monde qui est devenu court-termiste. Et ça aussi, c'est un art. C'est quelque chose d'ailleurs. Il y a aussi un livre qui a été écrit dans ce sens-là par une personne d'une très grande renommée dans ce domaine aux États-Unis, qui s'appelle Dory Clark. Et savoir envisager le futur et être dans l'agilité par rapport aux différents, aux court terme, au moyen terme et au long terme, c'est une agilité très importante parce qu'on vit dans un monde d'incertitude, d'ambiguïté, de volatilité. Et par conséquent, jongler entre les trois, ne pas perdre de vue le long terme, cet objectif à long terme, et être dans l'ajustement du court terme et du moyen terme, c'est devenu nécessaire.
Oui. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on n'arrive pas trop à trouver, à avoir cette balance, parce qu'on ne sait pas s'il faut être court-termiste et pas réfléchir à plus tard et comment trouver... En fait, ça, je pense que c'est encore plus compliqué pour les plus jeunes d'entre nous qui ont pas beaucoup d'expérience dans la vie.
Oui, effectivement. Effectivement, les plus jeunes, et ça, je l'ai remarqué, alors les plus jeunes, ils sont beaucoup dans le court terme, ils sont dans le présent, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre à regarder dans le long terme. Et c'est comme si ils avaient une sorte de résistance à le faire, mais c'est nécessaire, surtout s'ils veulent après accéder à des positions de leadership où la responsabilité est forte. C'est que la notion d'avoir une vision stratégique pour
c'est
le
ça.
Futur est très très
importante. Absolument.
Donc il faut qu'ils l'aient pour eux-mêmes avant, quand on passait nos entretiens, on nous demandait toujours.
Dans 5 ans.
Voyez-vous dans 5-10 ans.
Exactement.
Aujourd'hui, poser cette question aux jeunes aujourd'hui, ça va leur paraître invraisemblable, mais plus ils vont avancer dans leur carrière, plus ils ont besoin d'avoir une vision à long terme, peut-être pas sur 5 ans, mais il faut qu'ils puissent avoir une vision à long terme d'eux-mêmes pour pouvoir après l'avoir pour une communauté, pour une organisation. C'est très important.
Eh bien, Malak Oussidoum, merci infiniment pour cette conversation. Merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci. Merci à toi.
Merci, Malak.
Merci
beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.